Bonjour. Je voudrais vous inviter à tourner votre Bible dans l'épître de Paul aux églises de la Galatie et Galates chapitre 1. On va lire juste du verset 1 à 5. Galates chapitre 1, verset 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La semaine dernière, nous avons eu un message de survol par notre pasteur concernant cet épître de Paul aux églises de la Galatie. Et ce matin, nous allons voir les cinq premiers versets qui constituent, dans le grec, une seule phrase et qui sert d'introduction pour l'épître. On ne va pas traiter les cinq versets. En ce qui me concerne ce matin, je veux me focaliser juste les deux premiers versets, le verset 1 et 2. Et en passant, j'intitulerai ce message « Les priorités dans la vie d'un partenaire dans l'Évangile ». J'ai mis l'Évangile, vous allez comprendre pourquoi dans le développement qui va suivre. Et pour cela, juste deux points. J'aimerais que vous reteniez deux points. Exalter Christ est plus important que nos difficultés. C'est ce que je veux par la suite développer. Et l'Évangile est plus important que les rivalités personnelles. Pourquoi ce titre? D'abord, nous venons de lire le passage. Je voudrais juste brosser pour dégager la structure textuelle de sa lettre introductive ici. Vous savez, dans le monde grec ancien, c'est pas comme nous aujourd'hui. Si je reçois une lettre, je commence à lire et je tourne la page. À la fin, je trouve, ah, qui m'a écrit? À l'époque, dans le monde grec ancien, les lettres commençaient toujours et à peu près avoir la même forme. D'abord, on voit toujours en premier l'auteur. Ici, regardez votre Bible, gardez Galates chapitre 1. Qui est l'auteur? C'est Paul. Il se désigne apôtre. Et il s'adresse à qui? C'est pour qui sa lettre? Donc les destinataires, nous le voyons au verset 2, aux églises de la Galatie. Et à l'époque, la lettre, toujours il y a donc l'auteur, les destinataires, et une salutation ou des pensées d'affection. Et au verset 3, nous lisons, pour ces pensées d'affection pour ses destinataires, que la grâce et la paix vous soient données. Et après, le développement de la lettre. Donc à retenir, de qui vient la lettre, pour qui, et les salutations et le corps de la lettre. Il y a quelque chose quand même qui me frappait en étudiant cette lettre, c'est que habituellement, si vous regardez les autres lettres de l'apôtre Paul, aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il a l'habitude de noter une parole d'action de grâce. Et dans cette lettre, cela est absent. Ça, c'est frappant. Si vous remarquez, Paul ne mentionne aucun nom de collaborateur. Il dit tous les frères avec moi, n'est-ce pas? Contrairement à sa manière d'introduire les autres épîtres, où il va citer qui est à côté de lui. Et ici, il a écrit l'épître de lui-même. Il a pris la plume. Pourquoi? C'est le contexte qui lui a, qui a permis que les choses soient ce que nous recevons dans Galates. Tout de suite, nous voyons qu'il exprime son alarme à l'égard du changement de position des Galates face à l'Évangile. J'ai relevé ces expressions qui parlent en soi. Dans son épître, par exemple, au chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne ». Au chapitre 1, verset 11, je déclare. Chapitre 1, verset 20, je ne mens point. Chapitre 4, verset 11, je crains. Chapitre 4, verset 12, je vous en supplie. Et chapitre 4, verset 20, je suis dans l'inquiétude. Au chapitre 5, verset 2, verset 21, je vous dis. Et encore plus fort que je vous dis, chapitre 5, verset 3, j'affirme. Donc toutes ces expressions parlent en soi du contexte auquel se trouvaient ces églises éparpillées dans la Galatie. D'abord, la structure de la lettre. Comment Paul se présente-t-il? Il ajoute son titre d'apôtre. Et vous savez, il insiste, il prend le temps d'insister sur ce point. Mais pourquoi? C'est là que je reviens rapidement, brièvement, sur ce que Michael a partagé la semaine dernière quant au survol de cet épître. Après le passage de Paul dans les assemblées de la Galatie, il y avait des prédicateurs judaïsants qui s'y sont introduits pour enseigner des fausses doctrines. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Paul le qualifie d'un autre évangile. Et cet autre évangile insiste sur le fait qu'il faut observer la loi de Moïse et les fêtes juives pour être sauvé. Si vous voulez le passage, chapitre 4, versets 9 à 10, vous pouvez le lire chez vous. Et ils insistent aussi qu'il faut être circoncis. Chapitre 5, versets 1 à 6, et chapitre 6, verset 12. Et vous savez, pour faire avaler cette pilule, il faut de l'astuce. Et alors, pour faire passer cet autre évangile, alors qu'il n'en était pas un, ces détracteurs de l'apôtre Paul ont mis en doute son apostolat pour prouver qu'il n'est pas un vrai apôtre de Dieu et par conséquent son enseignement n'avait aucune autorité valable. C'est pour cela maintenant, on comprend, dès le verset 1, il se dit « je suis apôtre ». Non pas de la part des hommes, ni d'un homme, mais de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Vous voyez ? On comprend mieux le pourquoi. Et après cette petite description, est-ce qu'on peut faire le lien entre le but maintenant, pourquoi l'épître, et la manière que nous venons de voir, comment il se présente? Quel est le lien entre cette manière de se présenter et le but, pourquoi il écrit l'épître? Il y a un danger. Vous voyez, ces expressions sous-entendent qu'il y a un danger qui menaçait ces églises. Alors, il prend la plume, il s'écrit au 6, verset 11, et il va écrire l'épître. Retenez deux buts. D'abord, défendre son autorité d'apôtre et défendre son enseignement. Ça, c'est les deux buts dans l'épître aux Galates. Défendre son autorité d'apôtre et défendre son enseignement. Alors, pour défendre son apostolat, Paul va expliquer comment a-t-il été fait apôtre? Regardez au verset 1. Comment a-t-il été fait apôtre? Il dit, non de la part des hommes, ni par un homme. Non de la part des hommes, c'est-à-dire qu'il ne porte pas ce titre grâce à un groupe d'hommes, tels que les 12 apôtres, ou bien les éminents de l'église de Jérusalem. Paul n'était pas quelqu'un comme dans notre société. Je grimpe pour y arriver à l'échelle et arriver au plus haut. C'était pas ça. Nullement, c'est le cas de Paul. Et il dit, ni par un homme. Dieu ne lui a pas accordé ce titre, non plus par l'intermédiaire d'un homme, comme Barnabas par exemple, ou Ananias ou autre, ou n'importe qui d'autre. Ça, c'est la défense de son apostolat. Et il faut préciser quand même, quand il se qualifie et prend le titre d'apôtre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Tout simplement, apôtre veut dire un envoyé, ou si vous voulez, un messager. Mais il comporte l'idée d'autorité. Il se rapporte à une personne qui a le droit de parler au nom de Dieu, si je peux dire ainsi, en tant que représentant ou délégué de celui-ci. Retenez, en un mot, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? C'est un envoyé qui est revêtu d'autorité délégué par Dieu. C'est un envoyé qui est revêtu d'autorité déléguée ici par Dieu. Et vous savez, quand vous lisez votre Bible, le mot apôtre n'est pas un terme général comme croyant, on peut voir dans la Bible, comme saint, on peut voir dans la Bible, comme frère, on peut voir dans la Bible, et qui pouvait s'appliquer à tous les chrétiens. Vous voyez, le mot apôtre, ce n'est pas un terme général comme le croyant, saint ou frère, qui peut s'appliquer à tout croyant. Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, nous lisons que tout croyant, tout chrétien est un saint, n'est-ce pas? Mais aucun chrétien n'est un apôtre. Tout croyant ou chrétien est un saint, mais aucun chrétien n'est un apôtre. Pourquoi? Et j'étais émerveillé de voir, parce qu'on sait qui peut être apôtre. Actes chapitre 1, versets 21 et 22, n'est-ce pas? Un témoin, condition, qualification pour être apôtre, selon Actes chapitre 1, versets 21 et 22, être un témoin oculaire de Jésus-Christ et être un témoin de sa résurrection. Mais j'étais émerveillé que même dans cette introduction, on peut voir aussi le fait qui justifie le titre d'apôtre qui n'est pas réservé à tout le monde, c'est uniquement réservé ici pour les douze et Paul. Regardez au verset 2. Quand Paul se distinguait clairement des autres chrétiens qui étaient avec lui au moment de la rédaction de l'épître. Nous venons de le voir au verset 2, il les appelle « tous les frères qui sont avec moi ». Ça c'est. Il les appelle « tous les frères qui sont avec moi ». Et il est heureux de les associer à lui dans la salutation. Et sans gêne, il se met en premier et s'attribue le titre d'apôtre. Et ce titre, il ne le donne pas aux autres. Il les qualifie les frères qui sont avec moi. Mais lui s'arrose et s'identifie et prend le titre d'apôtre. Donc, ils sont tous des frères, alors qu'il est le seul apôtre parmi eux. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est juste pour tirer la conclusion qu'il n'existe plus d'apôtres aujourd'hui, comme ça l'a été au temps de l'apôtre Paul, même au moment d'écriture de cet épître de Galates. Donc après cette clarification, je veux maintenant venir aux deux points que je vous ai dit au départ. Exalter Christ est plus important que nos difficultés. Vous avez vu les difficultés de l'apôtre Paul que je viens de brosser concernant ces mises en doute de son apostolat. Dans le contexte du passage, donc Paul cite le nom de Dieu le Père et Jésus-Christ pour défendre quoi? Pour défendre que son apostolat ne venait pas des hommes, ni par un homme, mais son origine, c'est divine. Ça, c'est ce que nous voyons dans ce passage. Mais je vois quelque chose qui peut être très pratique pour nous, que aussi le titre Dieu le Père et Jésus-Christ, Paul l'utilise non pas seulement pour la défense de son apostolat, mais aussi pour exalter la personne et l'œuvre de notre Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais tout simplement m'entretenir avec vous. Pourquoi je peux affirmer cela? Parce que vous savez, j'ai compté, dans cette brève épître, il y a 40 allusions à la personne de Christ. 6 chapitres, 40. Et moi, je n'ai compté d'autres qui font référence, j'ai pu compter 67. Mais en gros, écrit noir sur blanc, 40 allusions à la personne de Christ. Beaucoup. Et dans ces premiers versets, nous allons voir comment la personne de Christ est-elle exaltée. Dans ces versets que nous venons de lire, comment la personne de Christ est-elle exaltée? Nous voyons d'emblée, dans son introduction, que le Seigneur Jésus est présenté par son nom, Jésus-Christ, Jésus le Christ. Et au verset 3, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je veux regarder ensemble et nous émerveiller devant ce nom de la personne de notre Seigneur. Jésus, en hébreu, c'est Josué. Et la signification, c'est l'Éternel est salut. L'Éternel est salut. Dieu sauveur. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, je ne parle pas dans la Bible en entier, mais dans le Nouveau Testament, ce nom Jésus est utilisé plus de 700 fois. Et Josué, rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, a sauvé Israël en lui faisant traverser le Jourdain. Et il a mené des batailles aux côtés de son peuple. Et je dirais, c'était l'image de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons dire « Jésus est notre Josué et il se bat pour nous. Il est notre chef, il est notre protecteur, il est notre sauveur. Il est vivant. » Nous avons chanté « Il est ressuscité. » Donc il ne cessera jamais d'être notre sauveur. Il nous guidera en toute sécurité jusqu'à la bergerie céleste. Oh, je suis émerveillé, sans voix, quand je me rappelle de ces titres et ces significations pour moi. Quel sauveur! Deuxième point, le Christ signifie loin, celui qu'on oint, ou bien le chef, ou le Messie. Ce titre, Jésus le Christ, est utilisé plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez, le Messie promis dans l'Ancien Testament, qui vient de la lignée de David pour établir son règne de justice sur la terre, se trouve en ce Messie qui est déjà venu il y a environ 2000 ans. Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Sauveur, Christ celui qui est oint. Vous voyez, magnifique cette combinaison pour magnifier le statut de celui que nous désirons louer. Et nous l'avons fait depuis le début de ce culte. Car il est notre chef. Nous reconnaissons qu'il dirige toute notre vie. Et s'il est notre chef, ça veut dire que nous reconnaissons que nous ne sommes plus notre propre chef. Nous donnons et nous nous soumettons à lui pour tous les aspects de notre vie. Et au verset 3, nous avons remarqué, il parle de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est le grec kurios. Et vous savez, il est répété 750 fois dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Et il est similaire au terme hébreu Adonai. Et tous les deux étaient employés dans le sens. Le sens qu'il faut retenir quand on parle Seigneur, c'est le maître, le propriétaire. Mon maître, mon propriétaire. J'ai beaucoup de passages devant mes yeux, hein, mais on n'a pas le temps de s'étaler, mais si vous voulez noter, Matthieu 6, 24, Jean 4, verset 11, Jean 9, verset 36, je peux prendre dans l'Ancien Testament, Genèse 24, verset 9, Exode 21, verset 4. Chers frères et sœurs, lorsque nous proclamons Jésus est Seigneur, ou nous le chantons dans nos cantiques, c'est que nous affirmons sa suprématie absolue. Non seulement sur le monde matériel et spirituel, parce que Jésus dit en Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a la suprématie non seulement sur le monde matériel et spirituel, mais aussi sur l'histoire de l'humanité. Paul dit, Romains 9, 5, « Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. » Il a aussi la suprématie sur l'Église. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, en parlant de lui. Mais aussi, il a la suprématie dans notre propre vie. Pourquoi? Parce que déclarer Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire son maître, c'est se reconnaître implicitement qu'on est son esclave. Parce qu'à l'époque, un maître possède un esclave. L'esclave est sa propriété. Il fait comme il voulait. L'esclave n'a aucun mot à dire. Il fait ce que veut son maître. Et alors, c'est un mot qui est très riche et profond de sens. Quand je reconnais Jésus comme mon Seigneur, il est mon maître. Et implicitement, je me reconnais son esclave. Pas de force, mais un esclave de joie de lui appartenir. Qu'il est mon maître. Et vous savez, ces deux mots, si vous regardez la parole de Dieu en étudiant, le mot « maître » ou « kurios » en grec et le mot « esclave » ou « doulos », je dirais, si vous prenez une barre, c'est les deux extrémités d'une relation, comme je viens de dire. Le maître et l'esclave, c'est deux extrémités de la même relation avec notre Seigneur. Donc, il est mon propriétaire, il est mon maître. Je voulais reconnaître par là qu'il a le contrôle, l'autorité sur ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de confesser. Notre pasteur, en priant pour l'Église, a fait des confessions. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai reconnu pour cette semaine passée, écoulée, et je demande pardon au Seigneur. Je veux me repentir comme il a prié. C'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de ça. Nous confessons de nos bouches qu'il est le Seigneur, le Maître. Mais dans la pratique, souvent, ce n'est pas le cas. Il doit être le propriétaire de notre vie. Et moi, j'ai usurpé cette autorité et j'ai pris le contrôle de ma vie. Et peut-être le vôtre aussi. Et vous avez pris le contrôle entre vos mains, peut-être pour l'usage de votre temps, pour l'usage de l'argent, pour le travail, aussi même dans les domaines de nos relations, que ce soit au niveau du couple, ou familial ou professionnel. Nous avons pris le volant et la main, et Dieu a été mis de côté. Mets-toi à côté, côté passager, je contrôle ma vie. Pourtant, je l'ai confessé, il est mon Seigneur. Combien nous devons confesser, nous repentir et lui demander pardon pour cela. Donc nous venons de voir, pour exalter la personne de Christ, son nom, Jésus, le Christ, le Seigneur. Mais je vois dans ces versets 1 aussi, sa nature. Je n'ai pas insisté, mais maintenant je veux le dire. Que pour prouver la déité, ça veut dire que Jésus est Dieu. On voit dans ce verset 1 le titre donné à Dieu dans l'Ancien Testament, Adonai, Seigneur, et il est appliqué à Jésus. Vous voyez ? On voit dans sa nature qu'il est Dieu, même dans cette salutation. C'est magnifique pour moi. Jésus-Christ est Dieu. Et dans ce verset 1 aussi, une deuxième démonstration, comment on prouve que Jésus est Dieu ? Un peu de grammaire. Vous voyez dans le verset 1, je lis Paul l'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et, j'insiste, Dieu le Père. Le petite préposition « et » kai en grec. De même au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et la même proposition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes de la Trinité, le Père et Dieu le Fils, grammaticalement unis par cette préposition. La règle, tout simplement, c'est qu'ils sont, par conclusion, la même personne. Dans la règle grecque, de grammaire, je parle grec, quand il y a deux objets réunis par une préposition, c'est qu'ils sont identiques. Ça prouve, même grammaticalement, Paul, inspiré de l'Esprit de Dieu, prouve que Jésus-Christ est Dieu comme Dieu le Père est Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une exception. C'est ici dans la Bible, on trouve ça, cette même règle appliquée, si vous voulez le noter, à 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. On voit exactement la même chose. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Verset 12. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Parmi tant d'autres. Où cette règle de grammaire était là, inspiré par l'Esprit de Dieu dans le grec original, pour nous enseigner qu'il est Dieu, le Fils. Je vois encore dans ces deux versets, non seulement il est exalté en tant que Dieu, le Fils, mais aussi on voit son œuvre expiatoire sur la croix qui était aussi exaltée, dans cette défense de l'apostolat de Paul. Regardez au verset 1, Jésus-Christ est Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. J'aurais dû commencer par le verset 4. Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et ça, c'est Michaël qui va traiter la suite du verset, mais juste pour souligner l'œuvre de Christ est aussi mentionnée dans cette introduction. Vous voyez. Et pourquoi Paul insiste sur le verset 1 ? Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Pourquoi il insiste dans son introduction et que ça s'est glissé là? Tout simplement, il me semble que peut-être parce que les faux docteurs prétendaient que Paul ne pouvait être compté parmi les apôtres, parce qu'il n'a pas vu personnellement le Seigneur Jésus de son vivant. Ce n'est pas écrit, moi qui ai mis cette hypothèse. Mais nous le savons dans Actes 9, versets 3 à 6, que Paul a vu le Seigneur ressuscité qui s'est révélé à lui sur la route de Damas. N'est-ce pas? Donc il est apôtre. Chers frères et sœurs, ça reste un peu comme si un peu théorique, mais il y a une application ici pour nous. Face aux attaques portées par ses faux enseignants sous son apostolat, qu'a-t-il fait Paul? Face à ces attaques menées contre son apostolat, comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? On vient de le voir, Paul a exalté la personne de Jésus-Christ et l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Oui. Pourquoi? Parce que exalter Christ est plus important que nos difficultés. Pour Paul, les attaques concernant son titre d'apôtre. Et ça nous donne une leçon pratique face à nos difficultés de différents ordres. Il faut élever nos yeux pour contempler la splendeur de qui est Jésus-Christ pour moi. Au lieu de le fixer sur nos difficultés, nos luttes. Et ça, c'est la pratique que je vois dans cette attitude de l'apôtre Paul en s'adressant à ces chrétiens éparpillés dans la Galatie romaine. Christ est exalté parce qu'il est plus important que nos difficultés. Et c'est ce qu'a fait Paul. Imitons-le aussi. Mais ce qui nous amène maintenant à voir le deuxième point du message. Le deuxième point du message, c'est que l'évangile est plus important que les rivalités personnelles. On ne l'a pas posé la question, mais on va se le poser maintenant. Pourquoi Paul défend son apostolat? Est-ce par orgueil? Pourquoi il défend son apostolat? Est-ce par orgueil? Pas du tout. Est-ce que Paul est-il offensé parce que les hommes osent défier son autorité? En aucun cas. Retenez bien. C'était parce que l'évangile qu'il prêchait était en jeu. C'est pas sa personne qui est en jeu, c'est l'évangile qu'il prêchait en jeu. C'est pour ça que j'ai mis le titre, hein, « Les priorités dans la vie d'un partenaire dans l'évangile ». C'est parce que l'évangile qu'il prêchait était en jeu. Donc il faut comprendre que si Paul n'était pas un apôtre, ça c'est implicitement les conséquences, s'il n'était pas un apôtre de Jésus-Christ, alors les hommes pourraient rejeter l'évangile. Et ils étaient déjà en disséminant les faux enseignements dans l'église. Et ils n'hésiteront même pas une minute de le faire, ils l'ont fait. Voyez. Et pour Paul, il ne pouvait pas supporter cette idée parce qu'il annonçait le message du Christ sur l'autorité du Christ, parce que son appel en tant qu'apôtre a pour origine le Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à retenir, Paul, il doit défendre son autorité apostolique, non pas pour son ego, mais dans le but de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, j'étais surpris. En me plongeant dans ces petites épîtres, le mot évangile, notez-le, est répété 10 fois. 6 chapitres répétés 10 fois. Je peux vous donner les références pour dire l'importance de l'évangile aux yeux de l'apôtre Paul dans son cœur. Galates chapitre 1, verset 6, verset 7, verset 8, verset 9, verset 11. Que le chapitre 1. Galates chapitre 2, verset 2, verset 5, verset 7, verset 14. Et je vais terminer Galates chapitre 4, verset 13. 10 fois le mot évangile est relevé dans cette épître, courte épître. Ça démontre que l'évangile est au cœur de la préoccupation de l'apôtre Paul dans cette épître. Et pour montrer à ses détracteurs pourquoi l'évangile est si important à ses yeux et non pas son titre en tant qu'apôtre qui est important. Mais il y a un lien, comme je viens de vous le montrer. Si on nie son apostolat, on va attaquer l'évangile qu'il prêche. Donc, c'est important, vous voyez. Et donc, il va, pour démontrer qu'il est préoccupé par l'évangile, du chapitre 1, versets 6 à 10, il va dire et déclarer formellement qu'il n'y a qu'un seul évangile authentique. Pour défendre l'évangile qui était plus important à ses yeux, du chapitre 1, versets 6 à 10, il n'y a qu'un seul évangile authentique. On peut le lire ensemble. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. On va y revenir. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent, ce qu'ils veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, lui s'inclut, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, sous la malédiction de Dieu. Verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien qu'il y en ait beaucoup de faux, de soi-disant évangiles, il n'y a qu'un seul, celui que Paul prêche, le véritable évangile. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'une apparence en contradiction dans le verset 6 et 7? Verset 6, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, le autre. » Et au verset 7, « Non pas qu'il y ait un autre évangile. » Paul, réveille-toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu te contredis, Paul. Non, c'est parce que dans le grec, il y a deux mots pour « autre ». C'est ça qui fait la richesse du grec. Au verset 6, le « autre », c'est « hétéros ». Ça veut dire une autre espèce différente, pas de la même nature. Je veux illustrer par un exemple après. Et au verset 7, quand il dit non pas qu'il y a un autre évangile, le autre, c'est alors, qui veut dire de la même espèce, de la même nature. Je voulais le faire, mais j'ai oublié, tellement pressé ce matin. Si je prends une pomme Fuji, une pomme Renette, ce sont bien de la même nature, ce sont des pommes. C'est alors. Si je prends une pomme, je prends une poire, ce n'est pas la même espèce. Et c'est cela dont il est question ici. Cet autre évangile, au verset 6, qui avait été prêché aux églises de la Galatie, était en réalité une contrefaçon de l'évangile. Et vous savez, méfions-nous, restons accrochés à notre Bible, chérissons-le et étudions-la. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux évangiles, même de nos jours. Je peux formaliser par le mot le ritualisme ce qui s'est passé pour ces Galates, c'est-à-dire qu'il faut, pour être sauvé, se conformer à des rites religieux, revenir à respecter à la lettre les lois juives. Et il faut se circoncire, c'est ce que nous voyons. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir aussi les gens qui s'appuient qu'il faut des rites religieux, respecter les cérémonies, le baptême, les bonnes œuvres et tout, pour être sauvé. Je dirais aussi, il y a des faux évangiles qui sont aussi d'actualité aujourd'hui, que je qualifie de rationalisme. On substitue la raison humaine à la vérité révélée de Dieu. L'autorité en matière de foi n'est pas la parole de Dieu, mais la raison humaine. Et c'est pour cela, il y a des gens qui peuvent dire, par ma raison, je décide dans la parole de Dieu, cette partie elle est inspirée de Dieu, cette partie elle n'est pas inspirée de Dieu. C'est ma raison qui au-dessous de l'autorité de Dieu et qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est inspiré, ce qui ne l'est pas dans la parole de Dieu. Très important. Attention. Il faut, et c'est pour ça que Paul, corps et âme, défend l'évangile, parce que c'est le seul critère par excellence par lequel toute opinion humaine doit être évaluée. Vous voyez, l'enjeu est très très important. Une question se pose maintenant, on ne l'a pas encore posée. Quelle est l'origine de l'évangile de Paul ? Parce que nous venons de dire que c'est le critère par excellence pour évaluer toute opinion. Elle doit être évaluée à la lumière de l'évangile. Et alors, quelle est l'origine de cet évangile que Paul prêche et qui veut défendre ? Corps et âme. Et la réponse, c'est dans le verset 11 et 12. La réponse est dans le verset 11 et 12. Je vous déclare, chapitre 1, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ce n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quelle est l'origine de l'évangile que Paul prêche et que nous continuons à prêcher aujourd'hui? Il trouve son origine en Dieu, non pas dans l'homme. Il dit, verset 11, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça veut dire, ce n'est pas selon l'homme. C'est-à-dire, pas d'origine humaine. Littéralement, c'est ça ce que ça veut dire. Et il rajoute, vous voyez, tellement c'est important le sujet, il rajoute au verset 12, que je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Et intéressant ce mot recevoir. Recevoir, c'est le vocabulaire à l'époque appliqué aux étudiants qui allaient dans les écoles rabbiniques, comme Paul allait à Jérusalem au pied de Gamaliel, au pied d'un rabbin. Et c'est exactement l'évangile que Paul a reçu ne venait pas de Gamaliel, le rabbin reconnu de son époque. L'évangile que Paul a reçu vient de Dieu. Très important. Donc le mot reçu, hein, à l'époque, l'autorité venait parce que j'étais dans l'école rabbinique de Gamaliel, de telle personne. Donc, sur l'autorité, ce que j'ai dit, c'est important. Non. L'autorité de Paul, c'était venait de Dieu, qui lui a appelé en tant qu'apôtre et qui lui a missionné pour l'évangile. Et il dit au verset 12, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Et il y a peut-être une petite difficulté ici, dans le grec, mais on peut l'interpréter littéralement dans le contexte que c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation, parlant de l'évangile. Donc il a appris l'évangile par une révélation de Jésus-Christ, où, nous lisons dans Actes, pour son témoignage personnel, sur la route de Damas et en Arabie, Éphésiens 3, versets 2 et 3. Et vous savez, c'est avec une très grande autorité que Paul dénonce l'erreur. Il n'accepte aucun compromis. Il ne fait pas deux poids deux mesures. Et au chapitre 2, verset 5, vous voyez la résistance de Paul face à ces faux enseignants. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. L'erreur qu'il combat dans cette lettre, c'est-à-dire le retour aux pratiques juives, est un autre évangile. Vous voyez la sévérité dans laquelle il se met lui-même. Au verset 8, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire prêt à être maudit, et ce mot exprime la malédiction de Dieu. Et vous savez, ça c'est me frappé dans la place de ces mots dans cette introduction, que le zèle de Paul pour l'évangile est tellement si désintéressé, et qu'il n'hésite pas à invoquer même la malédiction de Dieu sur lui-même et ses autres. Et il se rendit coupable parce que s'il tord l'évangile de Dieu. Mais ma question, en réfléchissant sur ce passage, je m'interrogeais et je me suis dit, mais pourquoi Paul utilise un langage aussi dur, maudit? deux éléments de réponse parmi tant d'autres que je voudrais juste proposer. Pourquoi Paul utilise un langage aussi dur, qui soit anathème? Parce que cela revient à déclarer que l'œuvre de Christ à la croix est vaine, inutile, aucun sens. Il le dit, Galates 2:21, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Oui. Donc, là c'est vérité, c'est parce qu'on porte atteinte, on attaque l'évangile. Parce que cela voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'œuvre de Christ était insuffisante et que les hommes après peuvent en rajouter, peuvent modifier, peuvent enlever ce qu'ils veulent. Dénaturer complètement l'évangile de Jésus-Christ. Ça c'est le premier élément que Paul ici donne comme réponse. Mais par ailleurs, nous savons l'amour que Paul a eu pour l'évangile, c'est qu'il se souciait des perdus, de leur destinée éternelle. Paul savait dans Romains, nous lisons, qu'il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif premièrement, puis grec. Il dit même au Romains chapitre 9 qu'il subisse l'anathème aussi s'il ne prêche pas l'évangile à ses frères dans la chair. Vous voyez? Tellement c'est important, il a le souci des âmes. Par conséquent, corrompre l'évangile revient à détruire le moyen de salut, ainsi conduire à la perdition des âmes. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer pour nous aujourd'hui? Nous venons de parler que Paul avait attaché beaucoup d'importance à la gloire de Christ et aux destinées des âmes. C'est pour cela qu'il ne supportait pas de voir altérer l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne d'avoir le même zèle pour l'évangile et le fardeau pour les âmes. Nous avons fait remarquer que les rivalités de ces faux enseignants n'étaient pas le plus important aux yeux de Paul. Ce n'est pas l'attaque contre sa personne qui est le plus important. Ce qui était le plus important à ses yeux, c'est de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Le fait qu'il s'inclut lui-même dans la liste pour subir l'anathème, je dirais, le lave de toute accusation d'animosité ou de vengeance personnelle. Quel bel exemple! Quel bel exemple! Chers frères et sœurs, que Dieu nous accorde cette même grâce de voir l'importance de l'évangile dans nos vies, de tous les jours. Il n'existe qu'un seul évangile, celui de Jésus-Christ, et il ne se change pas. Veillons à le garder pur et à le proclamer dans la pureté sans compromis, comme Paul l'avait fait. Je vais terminer, chers frères et sœurs, imitant l'exemple de Paul. Face aux difficultés qu'il subit, qu'est-ce qu'il a fait pour répondre? Il a montré que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il